Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Parce que vous savez qu'en dehors de la parole, j'ai rien d'autre à vous donner. Vous le savez ça? Hein? Je n'ai rien d'autre à vous donner. Mais cette parole-là, si vous la recevez comme étant la parole de Dieu, et que vous vérifiez ce que je vous dis, si vous vérifiez dans votre Bible, cette parole, elle changera votre vie. Alors, est-ce que vous vous rappelez sur quoi j'ai commencé à prêcher? La foi. Et on va s'arranger pour que personne ne fasse une crise de foi. Il y a trop de chrétiens qui souffrent de crise de foi et qui après sont en colère contre Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur ne l'a pas répondu. Alors, premier message. Est-ce que vous vous rappelez? Non, je ne vais pas vous poser la question parce que très souvent, nous les pasteurs, on se retrouve presque embarrassés. Donc, non. Mais est-ce que vous vous souvenez que j'ai prêché sur le fait que pour avoir une foi solide, il faut être plus conscient de l'amour que Dieu a pour nous que de l'amour que nous portons à Dieu. Vous vous rappelez de ce message-là? Très souvent, les gens disent, oh, moi, tu sais, j'aime Dieu, d'accord? Le plus important, c'est que tu saches que Dieu t'aime. C'est pas si important que tu aimes Dieu. Non, avant de suffoquer, allez sur le site internet et réécoutez ce message. Il était vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Puis il y a un autre message que j'ai prêché également sur le fait que, qu'est-ce que ça veut dire Dieu est souverain? Oh, Dieu fait ce qu'il faut. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, ça dépend de Dieu. D'accord, vous savez, il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui ont cette même doctrine, notamment les musulmans, et c'est Inch'Allah. Beaucoup de chrétiens pensent comme des musulmans quand ils disent ça. Ils ne se rendent pas compte, mais c'est exactement ce qu'ils font. Donc, une fois de plus, avant d'arrêter de respirer, s'il vous plaît, allez sur le site et réécoutez. Et la dernière fois, est-ce que vous vous souvenez de quoi j'ai parlé? Quand même, là, c'est frais, je peux vous poser la question. Hein? Sur la foi de Dieu. Est-ce que ce message vous a parlé? Il vous a parlé, ce message? Si vous ne l'avez pas écouté, vous devez, c'est un must, on ne peut pas vivre sans ce message. Alors, je vais continuer ce message. Vous êtes prêts? Dis à ton voisin, es-tu prêt à entendre la parole de Dieu? Alors, j'ai énormément de choses à vous dire sur le sujet de la foi. Et moi, je crois que le sujet de la foi va être tellement établi en vous qu'il va être naturel et que vous ne serez intimidé par rien dans la vie. Et quand Dieu va vous dire, voilà, ça c'est à toi, eh bien, vous direz, d'accord, je reçois et vous le recevrez. Quand Dieu vous dira, fais ceci, eh bien, je crois que vous le ferez et vous en verrez les bénédictions. Alors, le sujet de la foi, ben, il est important. Il est important parce que, on l'a vu la dernière fois, Éphésiens 11, 6 nous dit tout simplement que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Juste, je le cite. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, c'est-à-dire que si tu ne sais pas comment avoir confiance en Dieu, eh bien, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Est-ce que tu vois la différence? Certains disent, ah mais alors ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. La Bible nous dit, avec ou sans ta foi, Dieu a choisi de t'aimer. Parce qu'avant la fondation du monde, il t'avait en tête. Jésus est mort pour le monde entier, Jésus est mort pour toi. Et la Bible est très claire dans le livre aux Romains que Dieu t'a aimé avant que même tu aies l'idée qu'il existe. Alors cela veut dire que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dans quel sens? Ben, sans la foi, le Seigneur n'a pas le plaisir de libérer à ton égard les bénédictions qu'il a cher payées en Jésus-Christ à la croix. Et ça, c'est la différence. Tu peux aimer quelqu'un et désapprouver sa façon de faire. Encore une fois, je reprends cet exemple. Quelquefois, quand tu dis à quelqu'un, « Oh là là, tu as une tache sur ton chemisier », très souvent, les gens entendent, « Il ne m'aime pas quand il dit ça ». Non, ça veut juste dire, « Tu as une tache sur ton chemisier ». Ça n'a rien à voir avec le fait que je t'aime ou je ne t'aime pas. Dieu nous aime. Mais si on veut plaire, si on veut que notre vie, notre manière de vivre notre vie chrétienne sur terre, plaise à Dieu, alors il faut la vivre dans la foi. La Bible nous dit, nous sommes sauvés par la foi. La justice est révélée par la foi, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que celui qui a été mis en règle avec Dieu, quand est-ce qu'on est mis en règle avec Dieu? On est mis en règle avec Dieu quand on a accepté le Seigneur. Nous avons été mis en règle. On ne peut pas se mettre en règle avec Dieu. On ne peut pas le faire. Tu m'entends? Tu ne peux pas te mettre en règle avec Dieu parce que tu ne peux pas te payer pour tes péchés. Alors il faut que ce soit Dieu qui te mette en règle avec lui-même. Et il l'a fait à la croix. Et quand nous acceptons, cela devient réalité pour nous. Et il est dit que celui qui est en règle avec Dieu, c'est-à-dire le chrétien né de nouveau, eh bien il a un style de vie, une manière de vivre, c'est par la foi. Ça n'est pas par ses cinq sens, c'est par la foi. Il est dit que ce que nous faisons sans la foi est appelé péché. Romains chapitre 14, 23, juste je vous le cite. Sans la foi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses pour Dieu. Et ils font, et ils servent, 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 et ils servent Dieu. Ils font des tas de choses. Ils vont rendre visite à tous les malades à l'hôpital, et c'est bien. Et ils prient pour beaucoup de gens, c'est bien. Et ils partagent leur foi facilement, c'est bien. Ils vont, font même partie des chorales, c'est bien. Mais la Bible nous dit, si on le fait sans la foi, la Bible dit, c'est péché. Waouh! Vous savez, quelquefois, les gens parlent de la foi, mais ils le font avec juste leur idée de la foi. La foi, ça n'est pas une mode. La foi, ça n'est pas quelque chose que l'on utilise quand on passe par des problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La foi, c'est un style de vie que l'on a, et s'il arrivait que des problèmes croisent notre chemin, eh bien nous étions dans la foi avant, nous sommes dans la foi pendant, et nous resterons encore dans la foi après. Très souvent, les gens, les chrétiens, vivent en fonction de leur foi humaine, et je vais vous rappeler ce que c'est. Et quand le problème est là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent et disent vite, il faut que je croie en Dieu. Mes amis, la foi, c'est la confiance. La foi, c'est la confiance. Non pas en un principe, non pas en un concept, en une personne. Et avoir foi en quelqu'un, cela réclame que l'on connaisse cette personne. Tu ne peux pas avoir foi en une personne, même que tu vas très souvent, comme par exemple les réceptionnistes qui sont là à l'hôtel. Est-ce que tu aurais confiance pour leur remettre les clés de ton coffre-fort ou les clés de ta maison pour leur confier ton enfant, ton bébé? Est-ce que tu aurais confiance? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une mauvaise tête? Non, je pense qu'ils sont tous bons en plus là-bas. Mais c'est juste une question de connaître la personne. Et quand on a des crises de foi, c'est parce qu'on essaie d'avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas suffisamment. Il y a un silence radio qui fait presque peur là. Vous réfléchissez? Marc 11, verset 22. Vous vous rappelez, je vous ai donné ce verset là. Marc 11, verset 22. Alors, Jésus a fait un miracle. Il a fait un miracle uniquement en parlant. Les disciples l'ont vu et ils sont en train de poser des questions. Ils se grattent la tête parce qu'ils se disent, c'est pas possible, mais comment? Et Jésus dit comment il a fait le miracle. Alors, dans beaucoup de versions, vous avez « ayez foi en Dieu ». Alors oui, bien sûr, c'est bien de dire cela. Mais à vrai dire, le grec dit « Ayez la foi de Dieu ». Vous vous rappelez l'histoire du camembert la dernière fois ? Le camembert qui est fabriqué en Normandie n'est pas comme le camembert de Normandie. Il y en a un, il y a les visiteurs qui se disent « Attends, on nous donne maintenant des recettes des cuisines après nous avoir donné un cours sur l'éducation tout à l'heure. » Il y a un camembert qui est industriel et l'autre qui est du terroir, traditionnel. Ayez foi en Dieu. Ben oui, on a la foi en Dieu. Mais la foi de Dieu parle de quelque chose qui nous montre ce verset sous un autre aspect. Si le Seigneur nous dit « Ayez la foi de Dieu », écoute bien, ça veut dire que ce n'est pas compliqué. Parce que Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui nous est impossible de le faire. Et on sait que ce verset est vrai. Vous vous rappelez que j'ai remonté jusqu'à une version de 1699 qu'on trouve même en 1500 et quelques. Mais c'est exactement ce mot était déjà dans ces versions anciennes. Ayez la foi de Dieu. Maintenant, regardez avec moi dans Romains chapitre 12, verset 3. Je vous ai cité également ce verset. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi. Selon la mesure de foi que Dieu a départie. La mesure de foi que Dieu a départie, que Dieu a donnée, que Dieu a donnée, que Dieu a donnée. Que Dieu donnera ? Non. Que Dieu a donné la mesure. La mesure. Quand il est dit « Ayez la foi de Dieu », pourquoi ? Parce que Romains nous donne l'explication. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons tous reçu, pas une mesure, parce que tu pourrais avoir une mesure plus grande de foi que moi. Non, non. Nous avons tous reçu la mesure. La mesure. Quelle mesure ? La même mesure que Jésus. C'est pour cela qu'il a dit « Vous ferez les mêmes œuvres que je fais ». Dieu a donné, Dieu a déjà donné à celui qui est né de nouveau la mesure de foi. Ce que l'on a appris, il y avait une image, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que l'on a appris, tu vois, si Dieu a donné une louchée de foi à Jésus, tu as reçu une louchée de foi. Aucun chrétien né de nouveau ne peut pointer le doigt vers Dieu en disant « Oh, je ne peux pas croire. » Aucun. À vrai dire, la mesure de foi, la Bible nous dit « Si tu as la foi comme un grain de moutarde. » Le Seigneur n'a pas déversé en toi un tracteur de foi, il nous a donné la mesure, et cette mesure, quand nous l'exerçons, elle est suffisante pour voir tous nos besoins pourvus. C'est-à-dire que ton problème ne sera jamais plus grand que ta foi. Dans Marc chapitre 11, vous vous rappelez que le Seigneur dit « Si tu as une montagne devant toi, c'est une montagne, c'est plus grand que toi. » Ça veut dire que ça représente un problème. Si tu as une montagne devant toi, il dit « Dis à cette montagne, dis à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. » Et il dit « Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. » C'est-à-dire ta foi est suffisante pour déplacer les montagnes de ta vie, pour déplacer les problèmes de ta vie. Voilà ce que le Seigneur dit. Elle est suffisante. Alors tu vas dire, bon ben c'est bien, mais je n'ai pas vu toutes mes montagnes déplacées. Eh bien, on n'a pas vu toutes les montagnes déplacées. Pourquoi ? Parce que nous avons vu la dernière fois qu'il existe deux fois. Deux fois. Nous allons reprendre cette même direction aujourd'hui et je vais vous donner des exemples. Il est dit « Ayez la foi de Dieu ». Donc nous savons qu'il existe un genre de foi qui est la foi de Dieu, la même foi que Dieu. Et il existe un autre genre de foi, celle que la plupart des chrétiens utilisent quand ils croient Dieu pour un exaucement de prière. Et ça ne marche pas parce que cette foi-là est incapable de voir des miracles. Cette foi-là est incapable de croire dans les promesses invisibles de Dieu. Regardez avec moi dans Jean, chapitre 20. Dis à ton voisin, j'ai reçu la même mesure de foi que toi. Et elle est suffisante pour déplacer mes problèmes. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Est-ce que vous y êtes ? Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets dans mon doigt la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux, et le mot heureux, c'est le même mot que béni. Les bénédictions qui te sont nécessaires pour avoir une vie abondante et une éternité garantie et riche, elles ont toutes été payées à la croix il y a 2000 ans. Toutes les bénédictions dont tu as besoin pour toi, et pour tous ceux pour qui tu pries, elles ont toutes été achetées il y a 2000 ans. Il n'y en a pas une qui manque. Pas une seule qui manque. Mais ce qu'il faut, c'est les recevoir par la foi. Et le Seigneur nous donne ici une idée. Il dit à Thomas, heureux, c'est-à-dire béni. Ah ben celui qui est béni va être heureux. Hein. Béni ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors il n'est pas dit, béni si tu as cru et que tu n'as rien vu. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais il est dit, béni celui qui, sans avoir vu, a déjà cru. Mais ce passage-là, il parle de quoi ? Il nous parle de Thomas. Il se trouve que Jésus est apparu après être ressuscité des morts. Jésus a son corps glorifié et il se présente aux disciples. Il se trouve que ce jour-là, Thomas n'était pas là. Pas de bol, il y a un truc super, un miracle énorme qui se passe à l'église et Thomas n'est pas là. C'était le jour où il n'aurait pas dû manquer ce culte-là. On peut en rire, hein? Sauf que les disciples vont lui dire, et Thomas dit non, 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 non. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit, si je ne vois ses mains, dans ses mains la marque, si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, si je ne mets ma main dans son côté, quand même c'est un peu glauque cette histoire. Hein. Je veux dire, attendez, imaginez un petit peu ce qu'il est en train de demander. Il dit, je ne croirai point. C'est-à-dire que Thomas, ici, est en train d'admettre que sa foi humaine, elle n'est pas suffisante pour croire à un miracle. On parle de deux fois, mes amis. On parle, ayez la foi de Dieu, Et on parle d'un autre genre de foi que tout le monde a. Je ne vais pas reprêcher, hein, mais même les inconvertis l'ont. Et par la foi, vous êtes assis sur la chaise. Par la foi, vous êtes venu ici en croyant qu'il y aurait quelqu'un qui serait là ce matin. Et Thomas, lui, il dit, si je ne vois pas, c'est-à-dire, il dit, moi, pour croire, combien aujourd'hui de chrétiens ne se vendent pas ? Même des chrétiens, alors le monde, on n'en parle pas, mais les chrétiens, combien de chrétiens ne se vantent pas en disant, ah, moi, si je ne vois pas, je ne crois pas. Hein. Ben ouais, Thomas, c'est exactement cela. Il était en train de dire, moi, pour croire, j'ai besoin de mes cinq sens. Il faut que mes yeux aient vu, il faut que mes mains aient touché, il faut que j'aie entendu, il faut que j'aie senti. Et d'ailleurs, à propos de cela, vous rappelez que quand Jésus a été appelé pour ressusciter Lazare, eh bien, il a dit, je vais y aller. Et il y en a un qui a dit, non, mais il sent déjà. Si ce que tu crois de Dieu dépend de tes cinq sens, mes amis, vous n'aurez jamais votre miracle. Vous n'aurez jamais votre miracle. Il va rester dans la tombe, votre miracle. Et Thomas est en train d'admettre que sa foi humaine ne peut pas croire dans le surnaturel. Seulement, il est dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas un conseil qui nous est donné. Ça n'est pas du style, tiens, c'est une bonne idée maintenant que vous êtes né de nouveau, ce serait une bonne idée que vous viviez par la foi. Juste comme cela. Mais si vous ne voulez pas, écoutez, c'est pas grave. Non, il est dit, le juste vivra par la foi. Et là, écoutez bien, Thomas, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si mes cinq sens ne rendent pas témoignage, je ne peux pas et je ne voudrais pas croire. La foi est un choix. Ce qui veut dire aussi, la bonne nouvelle, c'est que si mes cinq sens ne voient pas ce que Dieu m'a promis, rien ne m'empêche de choisir de croire. Lui, il a dit, oh, vous êtes en train de me parler d'un miracle, vous êtes en train de me parler de quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas senti, je n'ai pas touché, je choisis de ne pas croire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit après ? Jésus s'est représenté à eux tous, mais il est dit, 8 jours après, Thomas était à l'église. Cette fois-ci, il y était, il s'est dit, attends, j'ai loupé une réunion, ça m'a valu une bonne dose d'incrédulité, cette fois-ci, j'y serai. Et Jésus revient. Il se présente à eux, il ne passe pas par la porte, il passe à travers la porte. Pourquoi ? Parce que son corps glorifié, la matière de son corps glorifié est supérieure à la matière physique. C'est pour ça que ça n'est rien pour que la puissance, l'onction de Dieu passe dans un corps physique et guérisse le malade. Oh, j'ai de bonnes choses à vous dire à ce sujet, mais pas cette fois-ci. Eh oui. Vous réalisez que Thomas dit, eh bien non, puisque je ne vois pas, moi je ne peux pas croire que Dieu pourvoit mes besoins. Puisque je ne vois pas, eh bien je ne peux pas croire que Dieu paiera ma facture à la fin du mois. Puisque mon médecin ne me dit pas, ne me montre pas la radio de cet os complètement guéri, je ne peux pas croire que Jésus m'a guéri à la croix. Mais vous réalisez que Thomas, c'était quand même pas, il n'avait pas été parachuté. Thomas était un des disciples. C'est-à-dire que pendant 3 ans et quelques mois, il avait vu Jésus guérir les malades. Wow! Il avait vu des morts ressusciter. Il avait vu Jésus chasser les démons avec quoi? Avec la même foi que celle que Thomas aurait pu avoir et qu'il a choisi de mettre de côté et il a choisi de faire confiance à sa foi humaine. Je ne croirai que ce que je vois. Je ne croirai que ce que mes cinq sens me disent. C'est horrible. Vous savez, quand on a besoin d'un miracle, il faut se poser la question, quelle foi vais-je utiliser ? Ma foi humaine qui dépend de mes cinq sens, ou alors la foi de Dieu que j'ai en moi et qui me permet de croire dans ce qui est invisible. Et Jésus, bon, il n'est pas en train de lui faire un sermon de 10 jours. Le Seigneur est vraiment bon. Il dit, bon ben Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus arrive où il est et il l'encourage quand même à croire. Et Thomas a répondu, oh, ah, t'es vraiment toi alors. T'es vraiment mon Dieu. Et Jésus, tu vois Thomas, parce que tu as vu, maintenant tu crois. C'est-à-dire que Thomas était invité à croire avant d'avoir vu. Et Jésus lui dit, tu vois ta foi humaine, Thomas, eh bien, elle t'a amené à voir et maintenant tu crois. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Les gens, très souvent, ils veulent voir et alors je croirai. Ça, c'est la foi humaine. Et une fois que tu vois, tu n'as plus besoin de croire, parce que c'est là. Une fois que tu as ta guérison, une fois que tu vois la radio qui prouve que tu es guéri, tu n'as plus besoin de croire, tu le vois. Mais ce que le Seigneur dit, il dit, bénis ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. Il dit, c'est ceux-là qui vont hériter les bénédictions qui sont leurs en Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui vont vivre la vie de la foi. Ce sont ces justes-là qui vont voir leur montagne déplacée. Ce sont ceux-là qui vont voir leurs problèmes se déplacer devant eux. Ce sont ceux-là. La question est, quelle foi vas-tu utiliser ? Parce que beaucoup de gens demandent la prière. Parce qu'ils ne veulent pas, eux, utiliser la foi de Dieu en eux. Mais tu es celui, tu as les problèmes, tu es celui qui peut avoir le plus de foi pour voir ces problèmes ôtés de ta vie. C'est ça. Et le Seigneur nous dit que la mesure de la foi a été départie à chacun de nous. Tu as la foi nécessaire. Tu ne manques pas de foi. La question est, quelle foi vas-tu utiliser ? Vas-tu vouloir la foi qui dépend de tes cinq sens ou est-ce que tu vas accepter de croire comme Dieu ? C'est-à-dire, je vais croire en quelque chose qui est invisible. On va voir cela plus tard. Invisible ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Tu m'entends ? Invisible ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Cela veut juste dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, je ne peux pas le voir. Je peux pas vous voir. Ça ne veut pas dire que vous n'existez pas. Je ne peux juste pas vous voir. Le Seigneur ne nous demande pas de croire dans quelque chose qui n'existe pas. Il nous demande de croire en quelque chose qui existe, mais que je ne vois pas. La foi humaine, c'est-à-dire les promesses de Dieu, c'est-à-dire ce qui existe dans le monde spirituel, c'est-à-dire que le Seigneur dit, ah, tu veux voir avant de croire, bon ben voilà, tu vois, qu'est-ce que ça change maintenant pour toi ? Rien, tu l'as vu, et malheureusement, ta foi, tu ne l'as pas exercée. Ce qui veut dire que dans une prochaine occasion, eh bien, si tu restes avec ce genre de foi humaine, les cinq sens doivent d'abord toucher, voir, sentir, écouter, entendre, etc. Eh bien, jamais tu verras les bénédictions de Dieu. Alors qu'elles sont déjà là.
Elles sont là, les bénédictions.
Elles ont... Peut-être si j'utilisais mon micro, ce serait mieux. Elles sont toutes là, les bénédictions. Elles sont là, les bénédictions. Christ les a toutes payées à la croix. Mais tu ne les vois pas. Non mais c'est énorme. La foi de Thomas reposait sur les informations de ses yeux. Non mais si on va avec ce genre de foi, S'il y a des personnes qui perdent la vue dans ces cas-là, ils n'ont plus de foi, quoi. Mais il y a d'autres yeux. Et le Seigneur a dit, la bénédiction de croire avant d'avoir vu est plus grande. Alors, il y a des... Moi, je vais... Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 8. Vous êtes avec moi là? Est-ce que c'est compliqué? Hein? C'est compliqué ce que j'explique là? Alors, ce qui vous rendrait un grand service, hein, c'est d'écouter le message d'avant et de le réécouter, de le réécouter, de le réécouter. Mais la foi de Dieu, on l'a déjà en nous. Ce qu'il faut, c'est savoir comment la libérer. Donc si vous revenez, eh bien, vous aurez l'occasion d'entendre bien plus là-dessus. Et c'est extraordinaire, extraordinaire. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Alors ici, il est dit, mais le capitaine, alors je vais lire là. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est touché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « Bien, j'irai et je le guérirai. » Attends, Jésus est sur le point de se déplacer en personne. Il y a beaucoup de gens qui voudraient que Jésus rentre dans leur chambre et les guérisse. Beaucoup de gens qui aimeraient que Jésus aille voir le banquier pour eux, change les chiffres, fasse remonter les chiffres, et qu'ensuite ils puissent acheter ce qu'ils ont besoin de s'acheter. Et Jésus dit, d'accord, d'accord. Ici, c'est très simple. Hein. Jésus dit, ah, tu as quelqu'un, tu connais quelqu'un. Ce n'était pas quelqu'un de sa famille. C'était quelqu'un qui travaillait pour lui. Et une chose que vous allez vraiment entendre et entendre pendant toute cette série, c'est que la foi, elle ne sert pas qu'à nous. On se sert de la foi de Dieu en nous pour les autres. Et ici, il a compris quelque chose, cet homme-là. Il dit, le centenier répondit, Seigneur, mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alors, cet homme-là n'avait pas d'alliance avec Dieu. Un chrétien né de nouveau qui dit à Jésus, je ne suis pas digne, ça veut dire qu'il n'a rien compris au film. Parce que nous avons été rendus dignes. Peu importe ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons été rendus dignes. Bon, bref, je change parce que sinon je vais me poser sur le sujet. Hein, et je m'efforce de continuer. En tout cas, ce centenier dit, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Non, Jésus, c'est pas la peine que tu viennes à la maison. Je ne veux pas, ne te déplace pas. En revanche, il lui dit, mais dis seulement un mot. Vous avez entendu des chrétiens qui chantent, dis seulement un mot et qui ne croient pas un mot de ce qu'ils sont en train de chanter? Et il dit, mais dis seulement un mot, pas 150, pas la peine de passer la soirée avec moi Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. On continue, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va. Prends tel micro et il prend. Joue plus vite et il joue plus vite. Je m'amuse. Et il dit à l'autre, eh bien toi viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, et ici ce n'était pas un juif qui parlait, c'était un centenier romain, un non-juif. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui avait été tous les Shabbats à la synagogue, écoutait la Torah, et il ne connaissait pas la parole de Dieu, mais le peu qu'il avait compris de qui était le Seigneur. Jésus dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et ici, on a une foi qui n'est pas humaine. Ce centenier, il avait toutes les bonnes raisons de dire à Jésus, oui, viens, parce que ça me rassurera. Si je te vois à la maison, ça me rassurera, là je croirai. Si jamais j'entendais ta prière, je croirais que le Père l'a exaucée. Viens, pasteur, viens. Et ce centenier-là, il dit seulement, dis un mot. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, je crois et je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de te voir, je n'ai pas besoin de te toucher, Seigneur. Je n'ai pas besoin de t'entendre. Sans avoir vu, je crois. Ça, c'est le genre de foi de Dieu. Je crois que si tu parles, mon serviteur sera guéri. Et aujourd'hui, vous avez des chrétiens, il leur faut le pasteur à la maison. Je ne dis pas forcément pour ici, parce que ce n'est pas vrai, mais je connais d'autres pasteurs. Il leur faut le pasteur à la maison. Il faut que le pasteur prie. Il faut que le pasteur leur impose les mains. Il faut que, donc, ça veut dire que déjà leurs yeux, ils peuvent toucher le pasteur. Ils peuvent voir le pasteur. Ils peuvent entendre le pasteur. Sentir peut-être, l'oignon sur du menu qui vient avec. Et ils s'attendent à être guéris de la sorte. Ça, c'est la foi humaine. Et si, par exemple, le pasteur disait au téléphone, « Eh bien, au nom de Jésus, je dis ton fils est guéri. » Ah non, pasteur, je te paye pour quoi, là? Viens. Ça, c'est la foi humaine. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est géant. C'est énorme. Énorme. Et ce centenier-là, il l'avait compris. Deux genres de foi. Tu as la foi humaine qui a besoin de voir, d'entendre, de sentir, de toucher avant de croire. Et tu as la foi de Dieu qui est en toi, puisque tu es né de nouveau, qui, elle, va croire uniquement en la parole avant de voir le résultat. Il faut que la parole soit plus sûre et tangible que ce que vous voyez. Regardez avec moi dans Juges. Qui a entendu des chrétiens qui sont en train de croire, de mettre leur foi en Dieu pour, je ne sais pas moi, une nouvelle voiture, pour la guérison, pour nanana, et qui placent des toisons devant Dieu ? Pour savoir si Dieu... Vous connaissez ça, hein? Et à vrai dire, ces chrétiens-là, eh bien, ils essaient de faire ce que Gédéon a fait. Et ils trouvent que c'est très spirituel. En général, ils se font toisonner. Et on va voir pourquoi. Vous avez trouvé Juges, chapitre 6, versets 36 à 37. Alors, juste pour vous donner le contexte, les Madianites sont venus contre Israël et le Seigneur demande à Gédéon de conduire le peuple d'Israël vers la délivrance. Il dit, écoute, moi je voudrais bien t'utiliser, Gédéon, et si tu te laisses faire, eh bien je vais pouvoir délivrer Israël à travers toi, grâce à toi. Et Gédéon, eh bien... Il ne voit que ce qu'il croit. C'est-à-dire, il se regarde dans le miroir et il dit, Seigneur, tu t'es trompé de personne. Ça, c'est à partir du verset 12, un petit peu plus haut que les versets, mais on va rester sur celui-là. Et le Seigneur dit à Gédéon, je veux faire de toi quelqu'un qui va te délivrer. Je veux faire de toi quelqu'un qui va avoir une influence. Je veux faire de toi quelqu'un qui va être un leader. Gédéon se regarde dans le miroir et il dit au Seigneur, tu sais, tu t'es trompé de porte, Seigneur. Je t'explique. Juste, je t'explique, Seigneur. C'est pas moi. Il y a quelqu'un qui a toujours de bons résultats en classe. Il y a son père, il a une position élevée dans la société. Il a toutes les connexions qu'il faut. Seigneur, va le voir. Pourquoi est-ce que Gédéon, aux abords, repousse la volonté de Dieu pour lui? Parce qu'il est en train de croire à ce qu'il voit au lieu de croire à la parole que Dieu lui a dite. Gédéon dit, mais Seigneur, tu ne sais pas que je suis le plus petit de la famille de Manassé. Et la famille de Manassé, c'est la plus pauvre de toutes les tribus d'Israël. C'est-à-dire, vous avez 12 tribus d'Israël, avec quelques milliers de personnes dans chaque tribu, et dit, Seigneur, nous, on est les plus pauvres. Et tu veux que je sois, moi, le leader qui amène toutes les 12 tribus vers la délivrance ? Seigneur, tu sais pas que j'ai pas tous les diplômes qu'il faut pour avoir une entreprise multinationale ? Mais Seigneur, je t'explique là, j'ai même pas le bac. Et après, il continue en disant, non mais Seigneur, non seulement moi je viens de la tribu la plus pauvre, la plus petite de toutes les tribus, bah c'est nous. Et parmi tous ces pauvres et tous ces petits, eh ben il y a un petit et c'est moi. Alors plus petit que cela, t'as pas et c'est moi que tu viens chercher, Seigneur. Parce que non, le Seigneur ne savait pas ça. Ah non, le Seigneur ne savait pas cela. Vous savez, à ce moment-là, ça aurait suffi pour que Gédéon croit en la parole de Dieu et disent d'accord Seigneur. Bon, si je me regarde dans le miroir, si je me fie à ce que je vois, si je me fie à ce que mes profs m'ont dit à l'école, si je me fie à mon relevé bancaire, si je me fie à mon mailing list, Seigneur, tu t'es trompé de gars. Mais maintenant, si je me fie à ta parole, eh ben voilà Seigneur, je suis là. C'est moi. Mais le Gédéon, il n'a pas raisonné comme cela. Il a douté. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander une preuve de plus. Maintenant, Juge chapitre 6, verset 36. Vous êtes avec moi ? Est-ce que vous voulez voir des miracles dans votre vie ? Est-ce que vous voulez voir la puissance de Dieu guérir votre corps ? Mais il y a mieux que cela, guérir le corps des autres. Est-ce que vous voulez voir des grandes provisions financières dans votre vie ? Est-ce que vous voulez voir des familles qui sont multipliées ? Vous voulez voir des gens sauvés ? Alors c'est la foi de Dieu, ça n'est pas notre foi. Juge chapitre 6, verset 36, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, donc il avait eu la parole de Dieu. Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. » C'est-à-dire qu'il a pris une peau de mouton et il dit, « Je vais la mettre dans le champ. » Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai, je croirai, c'est-à-dire je croirai, oui, que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Ici, Gédéon est en train de dire, mon Dieu, j'arrive pas à croire à la parole que tu m'as dit. Je ne crois pas que je suis celui que tu as choisi. Je ne crois pas que je vais avoir une entreprise, une multinationale. Je ne crois pas que je vais avoir un enfant. Je ne crois pas, pourquoi ? Parce que je n'ai pas vu. Alors Seigneur, eh bien, je vais te donner un moyen de parler à mes cinq sens de façon à ce que tu m'aides à croire. Cette peau de mouton, je vais la mettre dans le champ. Pendant la nuit, si la rosée ne tombe que sur la peau de mouton et que le champ reste sec, je croirai ce que tu me dis. Et le Seigneur l'a fait. Il dit non, encore une autre fois. Le verset d'après, il dit maintenant on va faire l'inverse. Tu vas faire en sorte que la rosée tombe partout dans le champ, sauf sur la peau de mouton. Alors Dieu l'a fait. Tu vois. Dieu l'a fait. Et Gédéon a cru, et Dieu a délivré le peuple d'Israël. C'est vrai, mais mes amis, pas de gloire. C'était sous l'Ancien Testament. Ça, ils avaient besoin de cela. Mais nous, sous le Nouveau, nous pouvons utiliser le genre de foi de Dieu. Et nous devons vivre. Quand il est dit « le juste vivra par la foi », il n'est pas dit « le juste vivra avec la foi humaine qui a besoin de voir, d'entendre, de sentir, de toucher ». Ce n'est pas avec ce genre de foi-là que nous devons vivre. C'est avec la foi qui croit dans la parole que Dieu dit parce qu'il voit de son côté ce qui est vrai de nous et il nous dit « moi, là où je suis ». Le Seigneur dit « moi, là où je suis, je vois ce qui t'appartient ». Tu m'entends ? Je vois ce qui t'appartient ici. Et maintenant, tu vas me faire confiance. Tu vas croire que ce que je te dis qui est à toi ici, je te le donne. Ok, Seigneur, je vois rien, mais tu le dis, alors c'est bon pour moi, je le crois. C'est simple, je le crois. Et le diable dit, oh, t'as rien vu, peu importe. Tu sais que la parole te donne, c'est pas quelque chose que tu entends, c'est quelque chose que tu vois. Hein? La parole, c'est quelque chose que tu vois. Si je te dis bateau, si je te dis patin à roulettes, si je te dis superbe couscous, c'est pas. Mais ça, c'est quelque chose que tu viens de voir. Seulement, c'est si rapide. Et quand Dieu te dit, voilà, je te dis, quand le Seigneur dit, je te dis que je t'ai donné ta guérison, si tu acceptes cette parole, déjà, tu la vois. Pour qu'elle se manifeste, il faut que tu croies. Seigneur, je crois que ce que tu dis est vrai. Donc je dis ce que tu dis, mon corps est guéri. Donc il y a des chrétiens qui se fient à la toison. Genre, je vais mettre une toison et j'ai besoin de voir si ce que Dieu me dit est vrai. Oui, sauf que la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que Satan est le Dieu de ce monde. Si tu te fies, si tu ne veux croire que ce que tu vois, alors le Dieu de ce monde pourrait s'arranger pour te faire voir ce que tu veux voir. Et c'est comme cela qu'il y a des personnes qui se sont mariées avec la personne avec qui ils n'auraient pas dû se marier, des personnes qui ont fait des soi-disant pas de la foi qui leur ont coûté la santé ou qui leur ont coûté leur réputation parce qu'ils ont voulu utiliser la foi humaine de l'Ancien Testament. Maintenant, il y en a d'autres qui ont eu la foi de Dieu sous l'Ancien Testament, ceux qui ont cru en l'Alliance. Mais il y a tellement de messages qui me viennent en même temps que je suis obligée de rester sur ce que je veux dire là. Est-ce que vous voyez les deux différentes fois qui existent? Et quand il est dit « Ayez foi en Dieu », bah évidemment, on va avoir foi en Dieu si on veut recevoir quelque chose de lui. Mais on va avoir la foi en Dieu avec sa foi à lui, celle qui n'a pas besoin de voir pour croire. Alors, pour nos amis qui sont sur Internet, tout se passe bien. Il y a juste un silence profond de la réflexion. Mais tout va bien, cher ami. Continuez. Maintenant, je vais vous montrer un autre passage. Matthieu, chapitre 14. Waouh! La Bible nous dit, hein, que chaque promesse que Dieu nous a donnée est oui et amen en Jésus. Ça veut dire que quand tu vois une promesse de Dieu dans la Bible, Dieu ne va pas te dire non, il a déjà dit amen à cela. Il a déjà dit oui, et nous disons amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 14. Enzo qui prêche. Kenzo, pardon. Non ? Oui, Kenzo. Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Vous vous rappelez sans doute de Pierre. Alors, le contexte, Jésus dit aux disciples, allez de l'autre côté. Pour d'autres, il dirait, venez vous installer à Nice. Pour d'autres, il dirait, déménagez dans le nord de la France, à Béthune, que Dieu nous en garde. Mais en tout cas, Dieu a dit quelque chose aux disciples. Il a dit, allez de l'autre côté du lac. Et puis, la tempête se lève, Jésus marche sur les eaux, et tous croient que c'est un fantôme. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui voudraient voir Jésus, mais attention, hein. Eux, quand ils l'ont vu, ils ont cru que c'était un fantôme. Hein. Donc, Et ils voient Jésus qui marche sur l'eau. Pierre, notre ami Pierre, est quelqu'un d'entier. Il n'y a pas de moitié, pas de... Non, c'est entier, tout ou rien. Évidemment, il voit Jésus. Il a déjà vu quelque chose comme cela qui se passait. Il a vu les miracles. Et le Pierre passionné, il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Dis-moi de venir. Et Jésus lui dit, écoute, c'est pas moi, je dis rien. Avec une question pareille, qu'est-ce que vous voulez que Jésus dise ? Pierre vient de se lier ses propres mains en disant, Seigneur, si c'est toi, eh ben, t'as qu'à dire que je vienne. Donc Jésus dit, eh ouais, c'est moi. Il n'a plus qu'une chose à dire, c'est, viens. Donc Pierre sortit de la barque, aussitôt. Il est tellement conscient de lui, il est tellement conscient de la parole vivante qu'il oublie où il est. Et il est dit, et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Tu veux pas me donner le... Hein? Mais voyant que le vent était fort, tout d'un coup, il a vu quelque chose. Non, vous réalisez que Pierre est déjà sorti de la barque et il est en train de marcher sur l'eau. Tout d'un coup, il voit que le vent est fort. Ce qui est marrant, c'est que le vent, ça s'entend. Mais lui, il a dû être impressionné par la hauteur des vagues et ce qu'il voyait. Il eut peur et il commençait à enfoncer. Et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Alors, franchement, il y a tellement de choses que l'on pourrait dire sur ce passage. Pierre est au milieu de cette tempête, il est dans la barque. Vous avez déjà traversé dans la vie des tempêtes et votre barque est secouée. Il y a un problème qui vient, il y a l'autre qui vient, et il y a un autre qui vient, et il y a un autre qui vient. Mais Jésus vous a dit, c'est exactement là que je te veux. Et quand on est au milieu de la tempête, et qu'on commence à avoir la nausée parce qu'on n'en peut plus, vous savez ce qui ne serait pas une bénédiction ? C'est de pouvoir en échapper. Parce que dans la tempête, il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Et là, ils déménagent. Beaucoup de gens qui veulent partir et ils changent de travail. Dieu n'a jamais dit « change de travail ». D'autres vont changer de conjoint. D'autres vont changer de je ne sais quoi. Parce qu'on a tous envie d'échapper à ce qui est difficile. Notre œil, ce que notre œil voit, c'est difficile. Ce que notre oreille entend, c'est dur. Ce que l'on peut toucher, c'est horrible. Et cette situation, on n'en peut plus. Et il se trouve que le Sauveur est là. Parce que le Sauveur leur avait dit, allez de l'autre côté. Le Sauveur est là. Pierre est ébloui par la parole qu'il vient d'entendre. Pierre est ébloui par la promesse qu'il vient d'entendre. Il a entendu une promesse de Dieu. Viens. Sur la base de cette parole-là, il croit. Sur la base de cette parole, il commence à marcher sur l'eau et il marche. Il est en train d'exercer le genre de foi de Dieu. Il est en train d'exercer sa foi. Mais à un moment, parce qu'il se laisse impressionner par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il peut toucher, parce qu'il est certainement couvert d'eau de mer à ce moment-là, la Bible nous dit, voyant le vent qui était fort, il eut peur, et quand il eut peur, tant qu'il a cru en la parole que Jésus avait dite, Il était en train de vivre son miracle. Mais quand il a voulu se fier à ses cinq sens, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir peur. Et comme il a commencé à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer. C'est-à-dire que avant, il avait peur. Avant, il était certainement gêné, même si c'était un marin pêcheur. Quand même, se faire balloter dans une barque en pleine tempête, c'est dur. Mais là, il était sur le point de perdre sa vie. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'un exercice de la foi de Dieu, il est en train de croire, il est en train, plus que de marcher sur l'eau, il est en train de marcher sur la parole. Il était en train de marcher sur la promesse. Il était en train de vivre un miracle. Ah ben, il n'avait pas encore touché Jésus, mais il était en route vers son miracle. Ce n'est pas parce que la tempête souffle dans ta vie que tu n'es pas en train de vivre un miracle. Mais à un moment, il a choisi de croire en ce qu'il voyait, en ce que ses cinq sens lui disaient. Et à ce moment-là, il a commencé à s'enfoncer. Il y a juste une chose qui est assez marrante, c'est que quand Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé qui? Il a appelé Jésus. C'est pas bizarre parce qu'il aurait pu appeler ses copains. Il leur dit, hé, les gars, là, Jean, dépêche-toi, je coule. Non. Il a appelé celui vers qui il allait et de qui il était le plus proche. Et il était, relisez ce passage, il est magnifique. Il était tellement proche de l'aboutissement de son miracle qu'il a suffi à Jésus d'étendre la main pour le faire remonter. Il avait déjà quitté la barque. Il était déjà parti. Il était déjà en route vers son miracle. Et tout le monde regarde ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Alors, tu es en route, tu as commencé à croire Dieu pour quelque chose. Tu as reçu une parole de Dieu. Tu as commencé à exercer ta foi, le genre de foi de Dieu, le genre de foi qui dit « je crois ». Tu as commencé à te préparer dans ce sens-là. Mais maintenant, peut-être que tu as commencé à regarder aux circonstances. Tu as commencé à considérer la hauteur de la mer. Tu as commencé à considérer ce que les autres te disaient. Tu as commencé à entendre les rumeurs autour de toi. Et tu as commencé à détourner ton attention de celui qui t'avait dit, qui t'avait donné le nom de ton miracle. Et tu commences à t'enfoncer. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux changer de foi. Tout comme au beau milieu du miracle, on peut passer à la foi humaine. On peut être dans la foi humaine et choisir de passer, d'utiliser la foi de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Rien ne t'empêche d'avoir ce que Dieu t'a promis. Rien, même pas le diable. Parce que la Bible nous dit qu'il est sous nos pieds. La seule personne qui peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu t'a promis, c'est toi. Ça n'est pas ce que les autres disent, ça n'est pas ce que ton médecin dit, ça n'est pas ce que ton banquier dit, ça n'est pas ce que ton curriculum vitae dit. La seule personne qui peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu dit, c'est toi-même. Donc, moi je ne sais pas quelle foi tu es en train d'utiliser maintenant. Est-ce que tu es en train d'utiliser ta foi humaine? La Bible dit « le juste vivra par la foi ». C'est un style de vie. La foi, ce n'est pas un outil que l'on sort quand on a un problème. La foi, ce n'est pas quelque chose dont on se sert en catastrophe. La foi, c'est un style de vie. Et on va voir plus tard ce que c'est. Mais en tout cas, si tu trouves que tu es en train d'utiliser ta foi humaine, eh bien, écoute la parole de Dieu. Écoute-la. Écoute la parole de Dieu et choisis d'utiliser la foi en Dieu. Tu veux répéter après moi? La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Qui croit à quoi? Qu'il croit ce qu'il voit? Non, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous savez, quand on a le genre de foi, quand on utilise le genre de foi de Dieu, ça évite d'accuser Pierre, Paul, Jacques, Philippe. Oh, c'est ta faute si je n'ai pas ci, c'est la faute de mon employeur, c'est la faute d'un tel qui m'a plaqué, c'est la faute de... Non, 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 non. Si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de moi. Franchement, vous vous rappelez de ce titre de livre-là, c'était extraordinaire et c'est vrai. Des Moïse Chakarian, le titre de son livre, Les gens les plus heureux sur terre. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Eh bien, je vais vous encourager à exercer la foi de Dieu. Moi, je ne sais pas ce que Dieu vous a promis dans la vie. Je ne sais pas ce qu'il vous a promis. Mais je sais une chose, c'est que s'il te l'a promis, c'est que cette chose existe. C'est que c'est dans son plan. Et s'il te l'a promis, il veut te la donner. Mais il ne peut pas te le donner sans toi. C'est-à-dire que Dieu ne prend pas son chariot de Noël et déverse toutes ses étrennes sur nous un 14 juillet ou un 25 novembre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu dit ce qu'il voit de son côté. Il dit, voilà, c'est à toi, je te le donne. Maintenant, il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu me fasses confiance. Pourquoi ? Parce que ne pas croire, c'est remettre l'intégrité de Dieu en question. Il faut que je m'arrête là. Il faut que je m'arrête là. Dis à ton autre voisin, tout est possible. Tout est possible. Tout. Tu crois à cela? Tout c'est quoi? En français, tout c'est tout, hein? D'accord, tout. Tout est possible. À celui qui croit. À ton autre voisin, dit tout est possible. À moi. C'est pas français, mais ça marche. On recommence. Tout est possible. À moi. Parce que je crois. Sans avoir encore vu. Parce que la vérité est que quand on croit, on finit par voir. Mais pour croire, je n'ai pas besoin de voir. Dieu a dit que nous avons un beau bâtiment d'église. J'ai un beau bâtiment d'église. Ah, je vais vous dire, le diable, il frémit à ce genre de message-là. Parce qu'il dit cela, alors déjà que... C'est vrai que la Bible dit les chrétiens, c'est l'armée du Seigneur. Non, mais ceux-là, ils partent avec l'épée de l'esprit à la main et un cri de victoire dans l'autre, on ne va pas pouvoir les arrêter. S'ils continuent à entendre la vérité, je ne pourrai jamais plus les tromper. Ouais, exactement. Vous savez qu'il y a des tas de promotions qui n'ont pas été reçues dans cette pièce. Je parle au travail. C'était juste une question d'incrédulité. Elles étaient là. Il y a des gens, ils ne savaient même pas qu'ils devaient mettre leur foi en Dieu pour cela. Mais mes amis, ça va changer.